à cette rencontre avec le gagnant du Grand Prix européen des Utopiaques 2011, rencontre qui finalement se transforme en rencontre multiple avec Ian McDonald qui était aussi nominé. Laurent Egor Closer aurait bien aimé être là, ainsi que Thierry Desrougaud, mais ont été contraints de partir assez tôt, donc ne peuvent pas assister à cette conférence. Donc nous allons commencer. Tout d'abord, merci Roman d'avoir fait cette invitation, mais aussi merci pour ton livre qui apparemment est un petit bijou et qui est un ovni, est une sorte d'ovni fictionnel et narratif. Mais toute première question, d'où est venue l'idée des rêves de gloire et comment tu pourrais le décrire ?
Bon, l'histoire, moi, c'est que je suis né en Algérie en 1960 et comme pas mal de gens, je suis rentré en 62. Pas tout à fait parce que je le voulais, mais parce que mon père était un ancien légionnaire, valait mieux quitter le pays, sinon c'était un peu dangereux. Et pendant toute mon enfance, ma mère était pieds noirs, j'étais vraiment persuadé que la manière dont la guerre d'Algérie s'était terminée était une injustice. Mais à ce moment-là, évidemment, je n'avais que le point de vue de Français d'Algérie. Mais la chance, c'est que mes parents achetaient pas mal de journaux. Alors, à la maison, il y avait Minute et Le Canard enchaîné. Quand j'avais 6-7 ans, je lisais les deux de manière totalement indifférenciée. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire quand même que Minute, il y avait peut-être un truc bizarre et que Le Canard enchaîné, c'était plutôt bien. Peu à peu, la version de mes parents, que mes parents m'avaient donnée, a été remise en cause. Et un jour, je me suis dit, il y avait d'autres manières que ça se termine, oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme manière intéressante ? Est-ce qu'on peut montrer que l'histoire aurait pu évoluer différemment dans le cadre de la guerre d'Algérie ? Et comme personne n'avait jamais écrit une uchronie sur la guerre d'Algérie, ça remonte à 20 ans, j'ai dit, je vais en faire une. Voilà, et je ne savais pas, au départ, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je me suis encore plus documenté que je l'étais. J'ai réfléchi pendant 15 ans. J'y suis allé vraiment à reculons parce que le sujet était délicat, voire brûlant. Et il y a 5 ans, j'en ai parlé à la Talente où Mireille Rivalan m'a fait un contrat en me disant « prends ton temps ». Alors j'ai pris mon temps, j'ai pris 5 ans. Et j'en suis arrivé à Rêve de gloire. Je ne pensais pas qu'il serait aussi gros au départ. D'autre côté, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de personnages, autant de voix différentes. Et puis, je ne pensais jamais que ce bouquin aurait le prix européen des Utopiales non plus. Là, je suis content. Et le prix du lundi, là aussi, je suis très content. Enfin bon, c'est, voilà.
Je te remercie. Yann, tu as écrit le fleuve des dieux il y a déjà quelques années. C'est aussi un roman assez particulier qui possède une narration très propre, avec un éclatement des différents points de vue et des narrateurs, et qui se passe de surcroît en Inde. Comment t'es venue l'idée et la jeunesse de ce roman ? Et comment tu pourrais le décrire ?
This book also took 5 years to write, so it's obviously something about being born in 1960 and books taking 5 years to write. It emerged. The idea came after a very long lunch with a lot of wine with my agent and my editor, and we got talking about why there was no science fiction in or about India. And I had this idea after that of kind of doing a big, fat Indian novel. And if you're going to write about India, it's always going to be a big social novel, because India is such a huge, complex society. There's so many levels and layers and classes and castes and subcastes and all that. So I wanted to write a science fiction book in India that went from the very top of society to the very bottom of society, where technological change touches the lives of every single person in the story, and their lives gradually intersect and come together. And also, it is just traditional that books about India have to be very, very big and very, very fat. But I'm interested, actually, that Roland said you moved when you were 2 years old. So, yeah. there's a theory by the Scottish writer Ian Banks, Ian M. Banks. He has a theory that all writers have moved before the age of five, and that the reason we write is to try to kind of recreate, to kind of create a safe environment, a world we can control again.
Ce qui est très amusant, c'est que Sylvie Denis, ma fiancée, a développé exactement la même théorie des nombreux déménagements dans l'enfance, indépendamment de Ian Banks. Et que quand elle a appris qu'Ian Banks avait développé cette théorie, elle faisait des bonds de joie parce qu'elle adore Ian Banks.
I think it's true as well. Yeah.
Petite question d'écriture. Comment avez-vous travaillé pour récupérer du matériel nécessaire à la fois historique ou de culture populaire pour Ian afin de construire ces univers d'une manière très cohérente, sachant que, par exemple, pour ce qui concerne l'Algérie, le manque de sources, comme tu l'indiques à la fin de ton roman, était quand même quelque chose d'assez cruel pour cette période historique. Et pour Ian, par exemple, le fait d'habiter en Irlande, mais d'écrire sur l'Inde, est quand même quelque chose d'assez particulier.
Disons, moi j'ai essayé de lire un maximum d'ouvrages sur l'Algérie et la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie l'histoire de la guerre d'Algérie reste à écrire, c'est très clair. Mon livre est un peu un livre sur l'impossibilité d'écrire cette histoire. Donc je me suis documenté toutes les sources possibles, je veux dire de l'extrême droite à l'extrême gauche, en essayant vraiment je veux dire, j'ai lu les mémoires d'un légionnaire corse de l'OAS, j'ai lu la question d'Henri Alleg, enfin pour citer des choses, je me suis vraiment documenté sur tous les aspects, et je me souviens que parfois j'étais en train de lire disons des choses pas très agréables à lire, et je me disais, putain, je suis né là-dedans, merde, bordel, ça. Et ça me mettait quand même super mal à l'aise. Donc j'ai, outre ma documentation personnelle absorbée in vivo, si j'ose dire, après, là, il y avait des moments où vraiment j'avais plus du tout envie de me replonger là-dedans parce que c'était trop horrible, quoi. J'ai même pas envie de détailler, quoi. Je vais prononcer le mot torture et que ça vous suffise. Et je m'y remettais et je suis quand même vraiment très content d'avoir pu, à terme, voir autant de points de vue différents sur cette guerre. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de rendre dans le livre avec tous ces narrateurs qui parfois n'apparaissent qu'une fois et qui chacun représente un point de vue différent, qui sont emportés par les événements de l'histoire, qui n'ont quasiment aucun contrôle sur eux et où chacun le vit en fonction de ce qu'il est, de sa religion, de son absence de religion. Voilà quoi.
I'm not Indian, as you probably noticed. And having done a lot of reading and traveling in India, I found that it's about finding ways that kind of get you into a society, and it's odd, silly little things that actually show up big things about a society. And it was things like it's a newspaper in India, but it's also a website now called shadi.com. And what it is, it's a matrimonial website for getting married. And I found this was a very, very precise way of actually unpacking how the caste system worked in India. Because even though there are like three big levels of Varna, four levels of Varna, the big major castes, the Kshatriyas, the Brahmins, and so on. Inside each of those castes, there are much smaller ones, smaller subcastes called Jati. And the way to unpack that was to actually look at the actual matrimonial ads, because people were looking specifically from someone from the very same subcaste. So it would be, they're looking for like an agardal and things like that, and I found that was an interesting way of exploring how important and at the same time how in the background kind of caste was in India. And in the book, I have this kind of massive online sort of digital soap opera called Town and Country, and that kind of came out of reading about soap soap opera is a big, big thing in India. I mean, what we see is usually the Bollywood films all singing, all dancing, but soap is equally big as well. And doing a bit of research into that, a soap opera will tell you almost everything you need to know about a place you're writing about. So I kind of felt, you know, so I was looking at, in some ways, things like popular culture to unpack and express all the little kind of, all the big stuff about India I've been researching. It was those little things that kind of made them real for people living everyday lives in future India.
En parlant de gens ordinaires, le fait, par exemple, pour toi, Roland, de laisser ces anonymes parler, tu viens de le dire, était un choix totalement de rapport objectif, mais du point de vue de la construction en tant que telle du roman. Est-ce que c'était pas un peu prise de tête et est-ce que tu as beaucoup travaillé ton style justement pour éliminer toutes les traces de caractérisation presque possibles?
Ah non, au contraire, ce que je veux dire, c'est que les personnages sont anonymes et j'ai fait une économie de nom propre aussi sur les personnages historiques. Mais par contre, disons que, bon, je ne vais pas prétendre que chaque personnage a sa voix. Mais il y a, disons que le narrateur principal, les quatre narrateurs secondaires et un certain nombre des autres narrateurs, je ne sais pas combien il y en a, je n'ai pas compté, ont une voix qui est reconnaissable. De toute manière, les narrateurs récurrents devaient avoir une voix reconnaissable pour que le lecteur ne soit pas en train de se demander qui parle et qu'il le reconnaisse instantanément. Par contre, ceux qui interviennent une fois, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent se ressembler, mais d'un autre côté, peut-être que si leur voix se ressemble, c'est parce qu'ils ne sont pas si différents les uns des autres. La guerre d'Algérie et tout un tas de choses nous donnent l'impression qu'il y a une coupure nette entre l'islam et les Européens, l'islam et la chrétienté. Moi, quand je vois ce qu'était, avec tous ces défauts de société coloniale, mais quand je vois ce qu'était la société en Algérie, il existait des stades intermédiaires, je dirais, des gens qui étaient à cheval sur les deux cultures. Et ne serait-ce que par l'emploi de la langue française. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, ce que je dis simplement, c'est que ça existait et qu'il y avait une acculturation qui était en train de se faire, que cette acculturation fonctionnait dans les deux sens, que certains Européens d'Algérie étaient certainement beaucoup plus proches des Algériens, disons des Berbères, parce que quelle que soit leur langue, ce sont des Berbères, que des Français métropolitains. Et d'ailleurs, parce que quand on vit au contact d'une autre culture, on finit par s'en imprégner, et qu'à moins de mettre en place un système d'apartheid totalement strict, ce qui n'était absolument le cas, il y avait d'énormes injustices, mais là il n'y avait pas un apartheid formalisé, les choses circulaient, la culture circulait, les gens changeaient. Et je pense que l'une des choses qui en Algérie a empêché l'apparition d'une véritable société mixte a été le très faible nombre des mariages interreligieux, en fait. Voilà.
Tous les deux, vous avez dans chacun de vos livres, je pense à Rêve de gloire et Au fleuve de Dieu, pour Ian McDonagh, j'ajouterai Brasing, de forts liens avec le milieu musical. Je pense surtout à l'intrigue pour Rêve de gloire du disque qui porte le titre de ton roman. Jusque dans quelle mesure la musique a influencé à la fois l'écriture, mais aussi la construction narrative de vos œuvres?
Je vais répondre très brièvement avant de laisser Yann vous expliquer pour lui. Ben en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un phénomène de... Bon, mon idée était que l'histoire culturelle et essentiellement musicale et l'histoire de la contre-culture locale serait le filtre principal par lequel le narrateur principal et donc le lecteur verrait la guerre d'Algérie et ses conséquences. Donc, on est dans une logique où c'est par une certaine forme de culture populaire qu'on accède aux événements historiques. Donc évidemment, on n'a pas une vision précise de l'histoire, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, personne n'a une vision précise de la guerre d'Algérie. Et l'autre chose que je voulais dire, alors sur la structure, je ne sais pas, mais l'autre chose, c'est qu'avec mes copains musiciens, on s'est amusé à faire quelques-uns des morceaux. Il y en avait un tout à l'heure, on en mettra un à la fin. Certains, on les a fait avant même que j'ai commencé à écrire. Il y en a un ou deux qui doivent dater de 95. Et c'est vrai que, bon, quand je terminais le bouquin, ben, je les écoutais pas mal parce que ben, mes potes musiciens et surtout mon guitariste Nono, ben. Ils ont mis l'émotion qu'ils ont mis dans les morceaux, ben je l'ai m'a aussi guidé pour mettre de l'émotion dans le livre, et donc il y a un phénomène de synergie et d'aller-retour entre ce qu'on a fait ensemble et le livre. Et là j'en profite pour leur rendre hommage, parce que sans eux le livre il aurait été différent, quoi. Et quelque part ils sont là, quoi. Eux aussi ils sont dans ce livre. J'ai pas mis que moi, j'ai mis plein de gens et surtout mes amis musiciens, quoi.
You should do a concert of music from the book. Get the band together, you know, do a gig.
Next year, for us.
That'd be really cool. No, I always write. I mean, getting into the music always gets you into a culture in a way that other genres can't. I mean, in Brazil, there's a big playlist of music at the back of the book, and some guy has put a playlist together on Spotify. It's a and if you actually put the code in, it'll play all the songs, which is very a nice thing to do. But one thing about Brazilian music is that we tend to think of it as like elevator music. But that's because we don't understand a lot of the philosophy behind Brazilian music. And there's a concept called saudade, sadness or sorrow. And you can hear it in the lyrics, but more you can hear it in the use of chords in Bossa Nova, the way the chords dip into minors and then out again. And saudade is a very important bit of Brazilian music and the Brazilian mindset, which is, even though you live in Rio, in basically the most beautiful city in the world, still there is sorrow and still there is death. And that's that little dip into kind of remembering the dark things in life as well. Every song has to have it. So that the joy of life is always tempered with that little bit of melancholy with saudade. And once I learned this, it gave me, a way to kind of try and get into the Brazilian way of looking at the world, that things are always have this edge of slight darkness and sadness about them. And it also made me listen to Brazilian music in a different way. And I'm still a huge fan of particularly Brazilian music, and I buy a lot of it and go and see Brazilian musicians if I can in Belfast. And also for the next book, the Dervish House set in Turkey, I listen to a lot of Turkish music. The Turks are very, very good at popular culture. They do fantastic cheesy pop music very, very well. But I particularly liked a singer called Sezen Aksu, she's like the Edith Piaf basically of Turkey, and she's following me on Twitter, which I thought was a great honor, actually. So yeah, basically, yes, yeah, music is always important.
But, peut-être ça va te dire quelque chose, c'est que effectivement, bon, dans ma construction de l'univers musical, s'il y avait des groupes brésiliens et turcs, ceux que je citerais, ça serait Os Mutantes et Erkin Koray.
Yes, absolutely, yeah. Yes, Os Mutantes went on tour as I was writing the book, and I didn't get to see them.
Mais au réfrigérateur, on a au fonctionnaire.
De fait, je ne me regarde pas comme ça. D'accord, oui. J'aurais voulu savoir de manière plus personnelle ce qui vous a amené tous les deux à écrire des littératures de l'imaginaire. D'où vous êtes venu ce goût d'écrire ou de lire des littératures de l'imaginaire?
Moi, je n'écris pas et je ne lis pas de la littérature de l'imaginaire. J'écris et je lis de la science-fiction. Éventuellement de la fiction spéculative, comme l'Uchronie, mais c'est tout. Je ne me considère pas comme un représentant. Enfin, moi, on me dit, tu écris de l'imaginaire. Je dis non, j'écris de la science-fiction, parce qu'il y a d'autres choses dans l'imaginaire qui est une étiquette, bon, qu'à titre personnel, j'aime pas beaucoup, mais je vais pas la, on va pas rentrer dans les détails. Non, non, moi, je suis clairement un auteur de science-fiction, de fiction spéculative. Je considère que mes maîtres sont, enfin, maîtres, les gens dans la continuité de qui j'aimerais bien être, si j'ai le talent pour, ça serait Robert Heinlein, Norman Spinrad, bon, Philippe K. Dick, évidemment, et John Brunner, qui est quand même l'un des plus grands écrivains des années 60-70 et qui aujourd'hui est un peu oublié. Mais bon, il est mort en 1995. Il paraît qu'il faut attendre 20 ans après la mort de l'auteur pour qu'on le redécouvre. Moi, je vous donne rendez-vous en 2015 pour Brunner, quoi, voilà.
Actually, you have exposed the trick behind my book. It's Stand on Zanzibar, set in India.
Mine too.
If you're going to steal from the best. Yeah. Fantastic book, Stand on Zanzibar. I think for me, why I write science fiction, maybe it's because I moved home when I was 5 years old, and I found myself in a strange new world where nothing was quite the same as it used to be, and I had to make sense of it all. And maybe science fiction is still that, trying to make sense of the world, to ask questions and take new experiences, new ways of thinking, and kind of put them down in a permanent form, in words. Take those experiences of actually being an alien and turn them into an alien world, in a sense. Yeah.
Oui, d'ailleurs, pour revenir à la théorie des déménagements, avec mes parents, quand on est rentré d'Algérie, on a fait 17 déménagements en 2 ans.
Wow. Yeah.
À toi ? Je sais pas.
Je sais pas. T'as un trou ?
Oui. Faut pas m'en vouloir, c'est dimanche.
Non, non.
Mais j'aurais voulu savoir aussi. Je sais que par exemple Yann, ce n'est pas la première fois qu'il vient aux Utopiennes, qu'il est très grand fan. Non. Toi, je sais que tu viens assez régulièrement aux Utopiennes. Que pensez-vous du festival en tant que tel, qui nous accueille déjà depuis
Ooh, yeah, I always love coming here because it was Friday, there was like a line of people under the age of 20 all the way out the front door and all the way down the street. And you don't get that in conventions in the UK and the US. And it's always encouraging to see a new generation of readers, readers and experiencers of the literature of the fantastic. Okay, I mean, it may be manga in a way, but in a sense, if you come here, you're exposed to every possible form of the literature of the imagination, and that's got to be a good thing for anyone. And I like the festival format as well. In America, in the US, and in the UK, it's more fan-run conventions, and they're great. But it's about, in a sense, it's about being a fan, and it feels can sometimes feel a little bit more closed and insular. But I like this because it's open, people come, and also it's a chance to be involved with a big, vigorous science fiction community here in France. I always like it.
Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, sinon que, comme me l'a fait remarquer Norman Spinrad, c'est un événement unique au monde. Il n'existe un festival comme ça nulle part ailleurs, sauf peut-être dans des contrées sur lesquelles on est mal renseigné, comme la Chine, j'en sais rien, mais sinon, je veux dire, comme il a bien fait la remarque pour le monde anglo-saxon, les conventions européennes sont des conventions... festival aussi important, soutenu par la ville, soutenu par la région, enfin avec un palais des congrès, avec 40, 50 000 personnes qui viennent, avec des films, avec des expos, avec tout ça, ça n'existe pas ailleurs. Donc profitez-en. Hein.
Est-ce que vous pensez de fait que la littérature de science-fiction, qui a quand même un aspect très négatif, surtout en France, commence à gagner des galons de... ces galons, pas de noblesse, mais se met au niveau soi-disant, des littératures plus générales, voire blanches.
Quand des auteurs de littérature blanche écrivent des ouvrages, disons, conjecturaux, ou employant des éléments et des tropes de la science-fiction, c'est considéré comme de la littérature. Quand un auteur de science-fiction écrit un livre littéraire, c'est considéré comme de la science-fiction. C'est une question de d'éditeur, de collection et de réseau. Ça n'a strictement rien à voir avec le contenu des livres. Okay ? Donc voilà, moi je dis oui, la science-fiction a gagné du galon, mais quand elle est écrite par les auteurs de littérature blanche. Et nous, l'auteur de SF, on est toujours considérés comme des sous-merdes par l'establishment. Et bon, j'avais promis de ne pas dire de grossièreté, mais moi personnellement, je les emmerde.
There's a poem in English which I suspect won't translate, done by the late Kingsley Amis, famous writer, father of Martin Amis, the novelist, and he wrote and was a big supporter of science fiction. And the poem goes, you won't be able to translate this. It goes, SF's no good, they bellow till we're deaf. Well, this looks good. Well, then it's not SF. That's kind of always been kind of the attitude that that science fiction in itself, you know, there's something wrong with the very name of it. And the thing is, there are a lot of readers out there who enjoy science fiction. They enjoy mainstream literature. They enjoy science fiction as well, as long as they don't actually know it's science fiction. And whenever Le Fleuve de Dieu, whenever River of Gods was published in the UK, the publishers very carefully did not put the word science fiction anywhere on the front of the book. Just said India 2047, and that was all. And people bought it. And it was the UK edition, not the Denoël edition. And people bought it. And they said, I enjoyed that. That was science fiction. But I enjoyed it anyway, because people are actually much more open to it than they think they are. It's just, it is just genre stereotyping from outside the genre and from inside the genre as well.
Rodin m'impressionne. Votre conception de l'imaginaire, de la science-fiction. En tant que telle, possède-t-elle un caractère, je pense à Yann, qui se projette toujours, surtout dans Brasil et le Fleuve de Dieu, dans un futur proche, plutôt un caractère prédictoire, ou par exemple pour toi, avec Rêve de gloire et l'Uchronie, un caractère de souvenir et de pouvoir de raconter de faire évoquer des souvenirs qui sont parfois oubliés. Je pense encore, par exemple, au 17 octobre 61, qui est, à l'heure actuelle en France, reste quand même un événement confidentiel, qui commence seulement à réapparaître dans les médias pour les célébrations ou dans les manuels d'histoire.
Une chose, c'est que j'ai mis un minimum d'explications dans mon roman, parce que je pense que si le lecteur s'intéresse à la guerre d'Algérie, c'est à lui de faire son propre travail de documentation sur la véritable guerre d'Algérie. Comme c'est une uchronie, et aussi parce que c'est quelque chose que j'aime pas faire, je n'ai pas voulu imposer ma vision de la guerre au lecteur. C'est au lecteur de chercher, c'est au lecteur de se renseigner. Wikipédia est son ami, Google est son ami, Bing est son ami. Enfin, je veux dire, Internet est là. Si vous ne savez pas qui c'est Boudiaf, vous pouvez chercher. Si vous vous demandez pourquoi le général de Gaulle est assassiné le 17 octobre, vous cherchez la date du 17 octobre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est pour répondre à cette partie de la question. Sinon, moi, j'ai pas l'impression. J'ai pas lu le roman d'Yann, mais j'en ai lu d'autres. J'ai pas l'impression que ça soit différent. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas fait un travail différent pour écrire cette uchronie que pour écrire les futurs mystères de Paris, qui se passent dans les années 2060. La seule différence, c'est que c'est dans le cadre de l'uchronie, il y avait quelque chose qui rendait le travail plus facile, parce que on peut beaucoup plus être allusif quand on colle à une certaine réalité. Ce que je veux dire, c'est que il y a des choses. Dans le livre, il y a des scènes qui ne sont pas expliquées, mais où un petit détail permet d'identifier à quoi ça correspond dans notre réalité. Je ne pourrais pas le faire dans un roman qui se passerait en 2060. En 2060, je serais obligé d'expliquer plus de choses. Mais par contre, le fait d'employer des techniques de traitement de l'information qui viennent directement de la science-fiction et de la fiction spéculative, telle qu'elle a été initiée par Robert Heinlein, par exemple, et m'en servir dans le cadre d'un roman que je qualifierais de réaliste, parce qu'il n'y a aucune extrapolation scientifique ou technologique ou quoi que ce soit. Non, les petits hommes verts ne débarquent pas, il n'y a pas de porte dans l'espace, et il n'y a même pas de télépathie, rien du tout. Je veux dire, la réalité de ce monde et ses lois physiques sont identiques aux nôtres. Donc j'avais tout un tas de choses que je n'avais pas besoin d'expliquer, alors que dans un roman de fiction spéculative d'anticipation, j'aurais été obligé de les expliquer. Donc quelque part, je ne dirais pas que c'était plus facile, mais c'est un travail qui était légèrement différent. Mais sur le fond, de toute manière, je crois vraiment que quand on écrit de la science-fiction, et quand on écrit de la science-fiction moderne, de la science-fiction du 21e siècle, on a derrière nous un corpus qui est absolument phénoménal, ce que certaines personnes appellent le méga-texte. Il se trouve que le mégatexte est essentiellement le corpus anglo-saxon et qui est traduit dans le monde anglo-saxon. Nous, en France, on a un avantage, c'est qu'on a notre mégatexte à nous, qui est plus petit, mais on a aussi celui des anglo-saxons. Je ne sais pas si ça nous procure un avantage, mais ce qui est certain, c'est que moi, ce que j'aimerais bien, c'est que le mégatexte français vienne enrichir le mégatexte anglo-saxon, que les Italiens, il faudrait traduire Nicolas Emmerich de Valerio Evangelisti en anglais, c'est très clair, que les Espagnols, que les Allemands, que tous ces gens soient traduits en anglais, parce que bon, il n'y a pas à tortiller, la langue international, c'est l'anglais. Et quand on regarde, par exemple, l'encyclopédie de Le Clout et Nichols, on se rend compte que les auteurs étrangers sont le plus souvent les auteurs qui ont été traduits en anglais, et que des auteurs qui sont importants dans leur pays sont absents de l'encyclopédie. Je ne suis pas du tout en train de critiquer, je suis en train de constater un fait. Et je pense vraiment que, en plus, le mégatexte y gagnerait, forcément, parce qu'on peut, à nous tous, et pas seulement les auteurs européens, parce qu'il y a de la science-fiction en Afrique, il y a de la science-fiction en Chine, il y a de la science-fiction au Japon. Je pense que vraiment, là, la science-fiction a été l'une des premières tribus mondiales, l'une des premières cultures mondiales, avec le rock'n'roll. Alors que le rock'n'roll et peut-être une création anglo-saxonne, quoique non, parce que c'est la musique du cœur de l'Afrique qui bat, la science-fiction, c'est peut-être qu'elle est apparue en Europe dans deux ou trois pays, et qu'après, la science-fiction moderne est apparue aux États-Unis dans les années 20, moi, c'est ce que je pense, mais je veux dire, c'est quelque chose qui appartient à l'humanité entière, il faut qu'on y participe tous, parce que plus on sera nombreux et à pouvoir se lire les uns des autres dans toutes les langues, et plus le corpus s'enrichira, et plus la science-fiction aura une identité forte au niveau mondial. Et je veux dire, en ces temps où on est en train de se faire niquer avec l'Europe et où le grand rêve européen, il est en train de se briser sur les rivages de la Grèce, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que avec la science-fiction, il faut qu'on fasse le contraire et qu'on se mette tous ensemble et qu'on s'aide tous les uns les autres dans tous les pays pour qu'il y ait un grand corpus de la science-fiction qui soit connu et accessible mondialement.
I have nothing whatsoever to add to that.
Non, mais qu'est-ce que tu veux? Après une tirade comme ça, c'est toujours très dur pour moi de.
Après une tirade comme ça, s'il vous plaît, musique? Parce que la bande originale existe, elle n'est pas en vente, mais vous pouvez la trouver sur le net. Voici le morceau titre. Je vous fais pas le playback, hein. C'est pas moi qui chante.
Au public de s'ils ont des questions particulières.
En fait, Roland, si j'ai bien compris, ton livre est un livre qui fait travailler, parce que si on ne connaît pas grand-chose de la période et qu'on ne se documente pas, on va certainement perdre le sel de ce qui fait cette histoire.
Quelqu'un m'a dit que ça ne se faisait pas, qu'un livre, ça devait être un truc qui tenait debout, tout seul, sans aucun élément extérieur, sans qu'on ait besoin d'aller chercher. Ah oui, d'accord. Et moi, je fais quoi pour, chaque personne a une vision différente de la guerre d'Algérie. Il y a ceux qui ont appris des choses à l'école, ceux qui n'ont pas appris, il y a ceux qui l'ont faite, il y a ceux qui ne l'ont pas faite. Il y a les gens qui sont d'origine algérienne, qui sont en France, et puis tu as des gens qui sont racistes, et ainsi de suite. Donc moi, pour ce que j'ai voulu faire, c'est faire une jolie structure, une jolie fractale, et que si on veut savoir ce qu'il y a derrière la fractale, il faut se documenter. Alors oui, je sais, maintenant il y a Internet et c'est facile. Bah oui, justement, il y a Internet et c'est facile, et c'est peut-être pour ça que je le fais, parce que moi je trouve que la guerre d'Algérie, elle n'est pas bien enseignée en France. D'ailleurs, en Algérie, c'est encore pire. Je trouve qu'il y a eu tout un tas de conneries qui ont été faites. Alors, j'avais promis de ne pas dire de mal des gouvernements récents, mais la loi sur les bienfaits de la colonisation, je veux dire, fallait pas déconner, quoi. Donc, c'est à chaque personne, après avoir lu le livre, et si elle a envie d'en savoir plus, d'approfondir, et je l'ai fait parce qu'il faut que chacun fasse son propre travail et sa propre recherche, pour la bonne raison qu'il n'existe pas de version consensuelle que j'aurais pu mettre dans mon livre, et que c'est pas à moi de la faire. Moi, je raconte une histoire, je suis un romancier, je suis pas historien, je suis pas homme politique, je suis pas prophète.
Justement, comme ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un roman, je suppose qu'il y a une manière de le lire uniquement pour l'histoire elle-même.
Ah bien sûr, non, mais je veux dire, on peut totalement s'immerger dans l'histoire des Vautriens de la Casbah, faire des bons en voyant les noms des groupes totalement impossibles, se demander qui sont les personnages, par où ils vont passer, trouver super rigolo quand l'un des personnages est sur un bateau ancré au large des côtes de la Kabylie, et où on émet du rock'n'roll à fond la caisse tout le temps, et alors en Kabylie les mecs commencent à se fabriquer leur propre guitare, ou alors ils en achètent une à 5 ou 6 groupes, et puis ils font du rock'n'roll, mais c'est interdit parce qu'à l'époque la démocratie n'a pas encore gagné, donc dans les caves et tout. On peut trouver que, en se foutant complètement du fond politique, que la manière dont l'Algérois, donc l'enclave française, acquiert son indépendance par rapport à la France en 77, notamment grâce au punk, c'est super éclatant. On peut se laisser émouvoir par les personnages, au contraire, avoir envie de leur coller des claques. Oui, bien sûr, on n'est pas obligé de faire le travail. Mais par contre, si on veut mieux comprendre, ou ne serait-ce que comprendre, ou la guerre d'Algérie, ouais, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire parce que je ne pense pas que ça soit possible de le faire, mais même en étant historien, en un seul livre, à cause de la multiplicité des points de vue, à cause du fait que les gens ne sont pas d'accord, et aussi parce qu'il n'y a pas une date consensuelle. Pour les pieds noirs, il est très clair que la date du 26 mars 1962, la fusillade de la rue d'Isly, où l'armée française tire sur la population européenne et qui a fait 62 morts, je crois, ça, c'est une date qui est importante pour eux. Par contre, pour les Algériens du FLN, il est très clair que soit le 19 mars, qui est la date du cessez-le-feu, soit la date de l'indépendance en juillet sont plus importantes. Pour les gens qui ont lutté contre la guerre en France, ils vont retenir le 19 mars 62, évidemment, et ainsi de suite. Le simple fait qu'il n'y ait pas une date sur laquelle on puisse se mettre d'accord est symbolique du fait que l'histoire reste à écrire, et je ne sais pas si on pourra l'écrire, mais en tout cas, je le répète, c'est aussi un livre sur l'impossibilité d'écrire cette histoire. D'où et puis lisez-le deux fois, c'est mieux.
Ouais, j'aimerais savoir, alors j'ai plus lu Roland Wagner que Ian MacDonald, hein, et je sais que ça la musique t'influence beaucoup, enfin. Et que tu as une grande part en plus de SF, de grande culture musicale. J'aimerais savoir donc pour tous les deux en quoi ça vous sert dans vos romans et en quoi peut-être les romans vous servent dans la musique. Et pourquoi, à votre avis, beaucoup d'artistes, moi je suis aussi les dessinateurs américains notamment, sont influencés par la musique et font de la musique. Et que, pourquoi les deux en fait, à votre avis ?
Music is such a basic and powerful art form, that, that it's a great way of getting into any kind of character or any kind of story. And I think, I mean, I've far too much music, and I listen to far too much music when I'm writing, and I tend to create little soundtracks for what I'm writing while I'm writing it, so I have a soundtrack for each bit, so that there's the really exciting soundtrack for the really exciting battle scene I will listen to, and things like that. But I think also the music of a period sums up the, in some ways, in a very kind of effective way, the emotion and the spirit of that period. And in my previous book from De Noël, King of Morning, Queen of Day, the third part of it is set very specifically in 1990, at the very start of kind of the just as kind of the rave music scene was kind of moving out of was kind of entering the mainstream, and lots of kind of experimental cut up and hip hop was all coming together at the same time, and it very very much kind of, I found that kind of early dance music really gave me what I wanted, the feel for how I wanted to write that section of the book. And the two are just so closely intertwined, I can't really separate them. I've never structured a book musically. I think that's a very difficult thing to do, to organize it like a symphony or like a concerto. It's a bit hard to do it like a three-minute pop song, because but longer form music, it's an interesting structure, but I'm not entirely sure I could write a novel with that kind of structure, but it's an interesting thought experiment.
Bah, ouais, je suis d'accord quoi sur ce qu'il a dit, mais je pense que qu'est-ce que je pourrais ajouter? D'abord une citation de Jim Morrison qui dit que music is your only friend until the end. La musique est votre seul ami. Moi qui suis moi je crois pas en Dieu quoi, mais le seul truc qui pourrait éventuellement me faire croire, ou en tout cas me faire admettre que peut-être il y a quelque chose qu'on pourrait appeler Dieu, c'est la musique. Et je pense qu'en fait l'élévation spirituelle elle passe par la musique, et je vous le répète, je suis totalement matérialiste hein, enfin. Mais la musique procure une élévation spirituelle. Alors après, de mon point de vue, ce sont uniquement des processus électriques et biochimiques à l'intérieur du cerveau. Mais ça n'empêche pas que le sentiment est là, que le sentiment océanique, on peut l'éprouver uniquement par la musique, sans avoir besoin ni d'aller dans une église, ni de prendre des substances illicites. Que bon, c'est dans l'être humain. L'être humain, il a ça. Alors après, on peut penser qu'il y a un créateur l'a fait ou pas, ça n'a aucune importance. Mais la musique, c'est la transe. Et la musique moderne, ainsi que je l'ai dit, c'est le cœur de l'Afrique qui bat, et l'homme est originaire d'Afrique, donc je veux dire, la musique c'est peut-être ce qu'il y a de plus proche de nos origines, de ce qu'il y a de plus proche des hommes, non pas primitifs, mais des espèces humaines qu'il y avait avant nous. À mon avis, la musique et le rythme sont des choses qui ont été inventées très très tôt, et c'est quelque chose qu'on peut suivre, et qui a peut-être que même dans le processus de sélection naturelle, les gens qui aiment la musique ont peut-être été favorisés par rapport à ceux justement qui n'ont aucun intérêt pour elle. Je sais pas, là je raconte des bêtises, mais enfin, je veux dire, la musique est quelque chose qui est pour moi fondamental, et je crois qu'elle est fondamentale pour l'espèce humaine et pour son fonctionnement. Il y a plein d'autres choses qui le sont.
Yeah, there's a theory that the first human languages were sung languages rather than spoken languages, and that some degree of this fact that language was sung rather than spoken still survives in tonal languages like Chinese. In China, 98% of the people have perfect pitch, which means if you play a note, they can tell you exactly what that note is, because Chinese is a tonal language. There's a book called, he's dead now, an English writer called Bruce Chatwin, called The Song Lines, where he goes to Australia in search of Aboriginal mythology, and he discovers the song lines, which are basically mythological, invisible mythological highways across the landscape, and all the information is governed by songs, and everything's interpreted musically, somebody will see a stone and that will remind them of a piece of song about that stone, which will lead them on to the next tree, and there'll be a song about that tree, and all the mythological information he's found is encoded at song. So I think Roland's right. I think there is, before speech, there was music, which I think is a kind of exciting thing.
J'ai une question un peu pour les deux. Alors pour Roland, après avoir passé si longtemps, 5 ans, tu dis dans le passé, enfin dans l'histoire, à retravailler l'histoire, est-ce que ton attitude par rapport au futur ou à imaginer le lendemain a changé, ou est-ce que tu es plus pessimiste qu'avant, moins pessimiste? Est-ce que ça change ton envie de loger des récits dans le futur? Et peut-être de la même manière pour Ian, est-ce que cette effervescence d'idées qu'on trouve dans tes textes, est-ce qu'il est propre à une imagination d'un futur, ou est-ce qu'il pourrait être logé quelque part d'autre? Est-ce qu'il pourrait être positionné dans le présent ou même dans le passé?
Bon, pour moi, j'ai pas du tout renoncé au futur, à décrire des avenirs. C'est juste que là, je dirais pas que c'était une parenthèse, mais bon, c'est un peu un devoir de faire ce bouquin aussi. Un devoir, pas une corvée, hein, un devoir. Et que donc, j'ai imaginé des avenirs. Là, j'ai un peu, pendant 5 ans, je me suis dit non, c'est pas la peine, il ne faut pas que je me perturbe. Cela dit, j'ai plein de futurs proches et lointains en réserve. Là, j'ai une super envie de repartir dans l'espace. Et oui, ça m'a... Je pense que ça a changé quelque chose, mais quoi, j'en sais rien, et je le saurai quand j'écrirai mes prochaines nouvelles, mes prochains bouquins. Mais c'est évident que j'ai découvert un certain nombre de techniques, un certain nombre de manières de raconter des histoires dans ce livre, et j'ai fait plein de choses que j'avais jamais faites avant, et maintenant j'ai bien envie d'appliquer ce que j'ai découvert dans le cadre de la science-fiction et dans le cadre de prospective et de littérature spéculative, d'anticipation. Oui, ça c'est évident, mais il est beaucoup trop tôt pour que je puisse vraiment répondre à ta question. Voilà.
That is a very good point about when you try something new and set yourself a huge challenge and actually achieve that challenge and do something you've never done before, you want to do it again because it's actually very exciting, and it can steer the way you look at what you write. I found the sequence of novels I've published, the first one was River of God, set in 2047. Then Brazil, part of which is 2032. Coming out next year is The Dervish Has Set in 2027. You may notice a pattern here. They're getting closer and closer and closer to the present day. And the next adult project I'm working on starts maybe 20 minutes from now and probably ends about 10, 15 years in the future. Because I've always thought that science fiction, in its many forms, is the only literature that actually can deal with the reality of the present, of the here and now. Most other forms of literature are backward looking in a way. Memory is important, but in science fiction, we take the hopes and fears and dreams of the here and now and we push them into the future. And it's for some ways, it's the most effective way of, say, all science fiction is ultimately about the present and the present day world. I just find my writing's getting closer to the present. But whatever I write, I will still have that science fiction mindset. And it's a way of looking at the world and looking at history and looking at current affairs and looking at technology that's different from any other kind of literature. And it's about asking questions. So I think whatever I do write, even if it looks like mainstream, and I'm getting more and more mainstream as I go on, I'll still have that science fiction way of looking at the world in the back of my head.
J'approuve totalement ce que vient de dire Yann. J'ajouterais juste un truc, c'est que il a dit que toute la science-fiction était la littérature qui parlait le mieux de la réalité présente. C'est ce que Claude Eken en France, c'est une idée que Claude Eken développe depuis longtemps, avec laquelle on est tous d'accord. Et là, brutalement, je viens de réaliser que peut-être pas toutes les uchronies, mais mon roman est un genre de roman historique qui parle d'aujourd'hui. justement parce que la réalité, parce que l'histoire a dévié, et qu'en montrant un autre présent, eh ben finalement on parle d'aujourd'hui. Mais n'empêche que c'est vrai que c'est aussi quelque part un roman historique, mis à part le fait que ce n'est pas notre histoire, mais la chose centrale, c'est le présent, c'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, et on sait que le présent est volatile, on est quand même dans une période de l'histoire humaine qui est tout à fait particulière et excitante, avec Internet. Timothy Leary, qui a été le grand pape du LSD, a dit « Internet sera le LSD du 21e siècle ». Et quand il a dit ça, j'ai rigolé parce que je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire, c'est que Internet allait avoir un impact sur la société au moins aussi important, sinon plus, et clairement plus, que les drogues psychédéliques dans les années 60. Et on sait qu'elles ont eu un impact considérable sur la société américaine, la société anglo-saxonne et le monde occidental. Et là, Internet, c'est le monde entier, ça touche tout le monde. Et en plus, c'est une... Et bon, je pense que tu vas être d'accord si je dis que la principale cause de changements sociaux et socioculturels, c'est la technologie, ce sont les technosciences. Voilà, donc et Internet est en train de nous... On a eu du mal à sortir du XXe siècle. L'histoire de deux tours, je pense. Et maintenant, là, Internet est en train de nous propulser tout droit vers le 22e, je veux dire. Et on est en train... Et pendant ce temps-là, il y a des gens, ils nous passent des lois du 19e siècle. Donc je crois que, bon, il faut vraiment vivre avec son présent et que, vivre avec son temps, être dans le présent. Et le présent, eh ben, c'est que... on est arrivé au village planétaire, il n'est peut-être pas aussi parfait qu'on le croyait, et c'est sûr que c'est dur de vivre ensemble, parce qu'il y a quand même des gens très très différents de nous, quoi, mais on ne peut pas faire autrement. Et c'est s'adapter ou mourir. Enfin, mourir, métaphoriquement, bien sûr. Je pense à l'industrie musicale ou cinématographique. Internet, c'est s'adapter ou mourir, parce que de toute manière, il est là, on ne peut pas faire autrement. Et moi, je trouve ça super excitant, parce que voilà, les changements sociaux, mais là, on a une palette de futurs qui s'ouvre, des possibilités absolument incroyables, quoi. Et en plus, la littérature de SF, elle est quand même arrivée à maturité depuis un bon moment. Je veux dire, ça, depuis les années 60 ou 70 ou 80, choisissez la date qui vous plaît. Et donc maintenant, on a un outil qui est super performant, qui est plus performant que la littérature blanche ou le mainstream, et qui nous permet de traiter du présent, des métamorphoses du présent. Et dans un monde qui n'arrête pas de changer de plus en plus vite, et où les gens qui prétendent nous régir, eh ben, ils comprennent que dalle, pour la plupart, ce que je veux dire, c'est que l'ASF, elle peut aider les gens à comprendre le monde moderne, à l'appréhender, et à se couler dedans, et à pas couler eux-mêmes.
Sur ce,
comme vous l'aurez deviné, je suis un peu technophile sur les bords.
On peut considérer ça comme le mot de la fin, je pense.
Merci.